Tandis que le grand débat national se poursuit un peu partout en France et qu'aujourd'hui est annoncé un 15e jour de manifestation des Gilets jaunes, jeudi, l'une des revendications phares du mouvement, le référendum d'initiative citoyenne, a été débattue à l'Assemblée nationale, portée par les députés La France Insoumise. Soutenue par 2 Français sur 3 dans les derniers sondages, cette mesure vise à donner plus de voix à chacun. Mais voilà, 3 heures de débat souvent tendues et la proposition de loi a été écartée et renvoyée en commission. 2 jours plus tôt, c'est le think tank Terra Nova qui s'est invité dans la réflexion sur l'avenir de notre démocratie en rendant une note sur le fameux RIC, mais alors un RIC délibératif. 8 universitaires emmenés par Terra Nova ont planché sur la question, dont notre invité Loïc Blondiot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions de démocratie, notamment participative. Auteur de très nombreux ouvrages sur le sujet. Peut-être commençons par le RIC, tout simplement, le référendum d'initiative citoyenne, avant d'en venir à votre note sur le RIC délibératif. Est-ce que vous pensez que cette revendication est somme toute légitime ?
Oui, elle est vraiment légitime. C'est un instrument démocratique par excellence qui renvoie finalement à 2 textes fondamentaux de notre droit politique. Il y a l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous dit que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. Donc, dès la Révolution française, cette idée que les citoyens étaient parfaitement capables de produire la loi, ou en tout cas de faire en sorte de proposer des lois. Et puis, on a l'article 3 de la Constitution de 1958 qui nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, il y a une histoire très très traumatique de l'usage du référendum dans l'histoire politique française.
Expliquerait sans doute pourquoi il suscite encore autant de réserves, autant de critiques.
Tout à fait. Il y a effectivement l'usage napoléonien, les usages napoléoniens du référendum, l'usage plébiscitaire du référendum, les usages gaulliens du référendum, qui ont tendance à hérisser, pour reprendre le terme d'Édouard Philippe, la gauche. Et puis à l'inverse, il y a un discours qui est très négatif sur le fait que l'initiative citoyenne. Alors,
oui.
De quoi parle-t-on quand on parle d'initiative citoyenne ? L'initiative citoyenne, c'est la possibilité pour un certain nombre de citoyens, alors un seuil doit être défini, de plusieurs centaines de milliers de personnes, de déposer une proposition de loi qui devra, sous certaines conditions, être soumise au référendum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, les institutions du gouvernement, le Parlement, mais surtout aujourd'hui, sous la Ve République, le président de la République n'a pas le monopole de l'initiative législative. C'est-à-dire que quand des citoyens ont le sentiment qu'il faut se prononcer sur une question qu'ils jugent importante, ils peuvent le faire. Et ça existe déjà dans le monde. Ça n'a pas provoqué de drame. Et en fait, diaboliser l'initiative citoyenne, comme on le fait généralement dans la classe politique, c'est quelque chose qui nous paraît complètement absurde.
Loïc Blondiot, le dernier ouvrage que vous avez dirigé avec Christophe Traini s'appelle « La démocratie des émotions ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, de tomber dans une démocratie des émotions avec ce référendum d'initiative citoyenne qui pose, pour certains de ses détracteurs en tout cas, des questions binaires à des questions complexes et laisse aller toutes les émotions sur la place publique ?
Dans les discours sur le référendum et sur l'initiative, il y a la mobilisation d'un lieu commun aussi ancien de la démocratie, que la démocratie elle-même, qui consiste à dire que le citoyen n'est pas capable de se saisir de questions qui sont jugées trop complexes pour lui. On lui dénie cette compétence et on s'est arrangé finalement pour qu'il ne participe pas directement au processus de décision. Ce sont des gouvernants qui certes ont été désignés par le peuple qui vont gouverner à sa place. Donc il y a quelque chose comme une forme de rejet, de volonté finalement de nier cette compétence politique. Or, on s'aperçoit qu'en fait, les exemples que l'on prend le plus souvent, en Suisse, voilà. Alors on nous cite systématiquement le cas du vote sur les minarets, mais on ne cite pas d'autres exemples qui vont en sens contraire. C'est-à-dire que l'instrument lui-même ne fait que refléter ce qu'est l'état de la société, l'état des opinions à un moment donné. Et effectivement, il peut donner le meilleur comme il peut donner le pire. Mais ce qui me paraît absolument essentiel, c'est que le référendum hommes ne se contentent pas, ou l'initiative citoyenne ne se contente pas de collecter des opinions à la manière dont on le ferait un sondage ou une consultation sur une plateforme numérique, mais qu'il soit le déclencheur d'un vrai processus délibératif entre les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut finalement que se cristallise cette discussion de tous avec tous, ce processus d'information. Et ça, ça n'est pas une donnée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des référendums qui finalement ne permettent pas une délibération de qualité entre les citoyens. Parce que pour que les citoyens puissent vraiment se prononcer, il faut qu'ils aient la possibilité de le faire, il faut qu'ils aient une information contradictoire et objective sur les conséquences des choix qui seront faits. Alors ça n'est pas toujours le cas, et c'est au risque finalement que cette délibération n'ait pas lieu qu'essaye de répondre la note que nous avons faite pour Terra Nova.
Le référendum d'initiative citoyenne délibératif, donc, qui dit le RIC, c'est légitime, c'est risqué, donc le RIC, oui, mais à certaines conditions.
Voilà, le risque, oui, mais à condition de l'adosser.
Pas le risque, hein, le RIC.
Le RIC, oui, oui. Alors, RIC, le risque sans risque, en quelque sorte. Le risque, oui. Alors, le risque n'est jamais sans risque. Hein. De toute façon, quand on consulte le peuple, il faut accepter finalement les choix qu'il fait. Il y a toujours un risque inhérent à la démocratie. Mais il n'y a pas de risque de RIC sans risque.
On utilise un autre mot que le risque.
Mais nous avons essayer d'adosser à ce dispositif de démocratie semi-directe, un dispositif délibératif qui a déjà été expérimenté, qu'on a emprunté à l'État de l'Oregon, qui depuis une dizaine d'années pratique depuis encore plus longtemps la démocratie directe et donc l'initiative citoyenne, mais a inventé un mécanisme qui fait qu'une assemblée citoyenne, ou un jury citoyen en l'occurrence, de 25 citoyens, est spécialement chargé d'étudier les conséquences des choix qui sont proposés à l'ensemble de l'électorat, de produire une forme de rapport, ils auditionnent des experts, et en fait, ils sont là pour éclairer le jugement des citoyens. Et en fait, nous faisons confiance, et nous avons, je crois, raison de faire confiance, à ce type d'assemblée de citoyens tirés au sort, une fois qu'ils ont été mis en situation d'approfondir leur connaissance du sujet et de débattre entre eux. Et en fait, cette articulation entre la démocratie délibérative et la démocratie directe nous paraît particulièrement vertueuse et être une possibilité d'application de l'initiative citoyenne.
Loïc Blondiot, vous êtes allé chercher donc cette inspiration, dites-vous, dans l'Oregon. On peut aussi se tourner vers l'Irlande, mais on peut aussi regarder près de chez nous, en France, peut-être ce qui se passe en ce moment à Commercy avec l'Assemblée des Assemblées. Est-ce que c'est une forme de délibération? Alors, ça n'est pas du référendum, mais à partir de questions qui sont posées, l'Assemblée des Assemblées, c'est-à-dire réunissant un certain nombre de personnes, alors là ils ne sont pas très très nombreux, c'est pas des centaines de milliers de personnes, c'est des centaines tout simplement, mais discutent et mettent en place des appels qu'on appelle, ils en sont au troisième je crois, l'appel de Commercy. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe là?
Alors là, ça c'est une des autres modalités de la démocratie authentique, c'est-à-dire une démocratie radicale, mais qui cette fois-ci, qui elle aussi finalement part du bas et qui tire son inspiration des propositions que pouvait faire Proudhon au 19e siècle. C'est-à-dire que pour Proudhon, finalement, l'élection n'est pas un instrument démocratique. Et en fait, ce qui compte, c'est que les citoyens s'assemblent à un niveau élémentaire, c'est-à-dire que se créent des assemblées primaires partout, que les citoyens, finalement, se regroupent et puis surtout se fédèrent. C'est-à-dire que par un système de représentation pyramidale, d'un certain point de vue, finissent par créer une fédération. L'Assemblée des Gilets jaunes de Commercy essaye de faire ça. Mais on voit bien que c'est particulièrement compliqué. Il faut accepter de se donner des porte-paroles. Il faut accepter de s'organiser. Et il y a un vrai problème aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a une tension entre cette exigence d'organisation, cette exigence de représentation, la nécessité pour ce mouvement de trouver des débouchés politiques pour pouvoir peser dans le système politique tel qu'il est, et le fait qu'il y a aussi un refus qui finalement considère que le RIC va répondre à tous les problèmes. C'est-à-dire que ce sera la formule magique qui va permettre d'introduire ici et maintenant, d'un seul coup, la démocratie. Or, il n'y a pas de démocratie sans citoyens qui débattent, qui discutent, qui s'assemblent, qui s'écoutent. C'est un point qui me paraît essentiel.
Bon, alors, à une échelle plus large, Loïc Blondiot, on peut parler du grand débat national en cours. Les citoyens s'écoutent, discutent, délibèrent. Le chef de l'État, d'ailleurs, n'a pas fermé la porte à un référendum qui se tiendrait le même jour que les élections européennes, le 26 mai, pour les conclusions du grand débat. Est-ce que c'est une occasion historique, là, de faire bouger la démocratie, ou est-ce que c'est une illusion, le grand débat ?
C'est une occasion historique, disons-le. Alors, elle est mal partie. Cette opération, on a pu l'analyser comme un coup politique, de façon à affaiblir le mouvement des Gilets jaunes et puis donner le sentiment qu'on répondait à ce mouvement sans se prononcer sur le fond. Mais en même temps, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la disponibilité des citoyens, disponibilité d'une fraction très importante de citoyens qui n'est pas forcément superposable au mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'est des citoyens différents, mais qu'on avait jusqu'à présent pas consultés et qui ont des choses à dire. Ce qui est très frappant, c'est la qualité des productions, la qualité des propositions qui sont faites, surtout le nombre. Tout se passe comme si, finalement, des gens à qui on n'avait jamais demandé leur avis nous disaient, oui, non seulement on a un avis, mais on a envie qu'il soit pris en compte. Et quand on regarde les débats, il y a une vraie demande. Et pour quelqu'un comme moi, qui travaille depuis 15 ans sur les questions de démocratie et à qui on disait, finalement, les citoyens ne veulent pas participer, ils sont très contents d'avoir des gouvernants et de travailler sur autre chose. Là, c'est un démenti absolument flagrant. Il y a un déficit de débat démocratique, un déficit de discussion démocratique, et ce grand débat est en train de le remplir. Mais évidemment, et ça on a pu l'observer dans d'autres cas, si jamais la réponse n'était pas à la hauteur, à ce moment-là, la frustration serait absolument gigantesque. C'est-à-dire que ça peut produire aussi cet effet-là.
Et là, on retrouve votre proposition d'organiser, Loïc Blondiot, comme perspective de transformation, une assemblée citoyenne à l'issue du grand débat dont les membres seraient tirés au sort.
Voilà.
Dans quelle perspective, avec quel objectif ?
Alors, on a été écoutés de ce point de vue-là. Nous voyons avec quelques collectifs intéressés par ces questions d'innovation démocratique. Nous avions envisagé qu'il y ait une seule assemblée citoyenne, vraiment qui se réunirait de manière symbolique à Versailles, par exemple, qui hérite finalement de toutes les contributions et qui indique finalement des priorités et que un référendum s'organise sur ces priorités. Finalement, le gouvernement a repris en quelque sorte cette idée, mais en faisant des conférences régionales, et pour l'instant il est encore trop tôt pour savoir ce que sera le rôle de ces conférences régionales qui seront tirées au sort, qui vont s'organiser assez vite, là, à la mi-mars, mais je dois vous dire que pour l'instant il y a un certain flou sur ce qu'elles produiront et ce qu'on fera de ce qu'elles auront produit.
Même flou sur l'avenir de votre note avec Terra Nova, le référendum d'initiative citoyenne délibérative, qui a appelé à devenir cette note. En général, quand on dit note, on dit rapport, on dit tiroir.
Alors moi, ce qui me frappe à propos de cette note, c'est que je pense qu'il y a encore quelques mois, et a fortiori quelques années, cette note nous aurait fait passer pour des gauchistes infréquentables, des gens qui effectivement
que vous n'êtes pas.
N'ont pas le sens, pas du tout. Et Terra Nova n'est pas réputée pour son caractère particulièrement subversif, en tout cas sur un certain nombre de domaines. Mais le fait que cette note ait été produite dans le cadre du think tank Terra Nova, qui est un think tank habituellement jugé de centre gauche. 2, qu'elle était très bien reçue par un certain nombre d'acteurs que l'on ne pouvait pas soupçonner d'être favorable à ce type d'innovation démocratique, me paraît être le signe que les choses sont en train de bouger et qu'aujourd'hui, le moment est peut-être venu, la fenêtre s'est peut-être ouverte pour de vraies innovations démocratiques dans ce pays.
Pour demander à notre invité ce qu'il en pense, art de la dispute, Loïc Blondiot, est donc une chose positive à regarder d'un bon œil ou hystérisation du débat, vous en faites le constat ?
Oui, je pense que le monde universitaire n'est pas exempt finalement des pathologies qui sont en train de gagner aujourd'hui le débat public. Et effectivement, ce que vous avez dit sur la brutalisation des échanges, sur l'hystérisation des échanges, échange et est présente aussi dans le monde universitaire. Alors pas forcément dans les revues et les journaux scientifiques eux-mêmes, mais dans l'espace public. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve.
Alors un qui ne mâche pas ses mots, Natacha, c'est le réalisateur italien Nanni Moretti dans son entretien pour le magazine Society.
N'importe quel idiot peut faire de la politique, dit-il. Militant de gauche depuis les années 70, son dernier documentaire vient de sortir, Santiago Italia. Alors le film revient sur un épisode méconnu de 1973, celui où l'ambassade italienne accueillait et secourait les réfugiés chiliens de la dictature de Pinochet. Alors pour lui réaliser ce film dans l'Italie de Salvini, c'est un geste politique fort. Aujourd'hui, la politique du gouvernement italien n'est plus une politique d'accueil, c'est évident. Il dénigre le populisme ouvert par Berlusconi, dont l'actuel gouvernement est à ses yeux le prolongement. Mais pour lui, la politique est avant tout un métier qui ne s'improvise pas. Et à ce sujet, Nanni Moretti n'est pas tendre. Moi, je n'ai pas compris ce que veulent les gilets jaunes en France. Vous l'avez compris, vous ? Aujourd'hui, beaucoup d'improvisateurs font de la politique. Ils n'ont aucune compétence spécifique. C'est un cadeau d'Internet, l'incompétence au pouvoir. Alors dans cet entretien, le cinéaste semble poser une question d'actualité que je vous pose. Le politique doit-il être une profession ?
Loïc Blondiot.
Alors à cette réponse-là, la réponse n'est pas simple. Non, en démocratie, historiquement, si on se reporte vers Athènes, tout était fait pour que ce ne soit pas une profession et on utilisait le tirage au sort pour désigner les magistrats et c'était sans doute une excellente chose. Mais simplement, il faut mettre en place les conditions pour que cet exercice du gouvernement soit possible par tout un chacun. C'est-à-dire qu'il est clair qu'effectivement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et qu'il faut qu'il soit accompagné par des experts qui leur permettront finalement de gouverner. Mais je crois que non, la politique ne doit pas être une profession et que nous irions mieux si ça n'était pas une profession.
Qu'est-ce qu'on fait, Loïc Blondiot, quand les gens ne veulent plus être représentés. On parle beaucoup de la crise de la démocratie représentative, mais en même temps, on voit comment, quand il y a une absence de représentation, ou vous le disiez tout à l'heure, de porte-parole, on l'a vu aussi avec l'éjection extrêmement violente d'Ingrid Le Babasseur la semaine dernière, qui se présentait sur une liste européenne et qui a été vraiment éjectée du mouvement de façon très, très violente. Eh bien, on voit bien quand même que c'est la porte ouverte à toutes les dérives, alors l'antisémitisme, les haines de toutes sortes, comme si finalement, c'était la porte ouverte au grand n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Là, vous avez vraiment raison. Ça fait quand même des décennies qu'on parle de crise de la représentation. C'est même une tarte à la crème du débat politique. Mais là, on est en plein dedans. Il y a une crise généralisée de la représentation qui porte sur toutes les structures de médiation entre les citoyens, entre la société civile et le gouvernement. Alors, ça vaut évidemment pour les syndicats, ça vaut évidemment pour les partis politiques. Nous sommes en train de mesurer la perte qu'on constitue, l'affaiblissement incroyable des partis politiques dans notre société qui, de leur faute en partie, n'ont plus joué ce rôle, ne sont plus capables de jouer ce rôle d'articulation entre les citoyens et le gouvernement. Mais ça vaut aussi pour la presse, ça vaut aussi pour les médias qui étaient aussi ces acteurs indispensables au jeu démocratique qui parvenaient à faire deux choses, qui parvenaient à faire remonter finalement les demandes, les expériences des citoyens, mais qui parvenaient également à les rendre compréhensibles, acceptables auprès des décideurs.
Et vous en parlez à l'imparfait, ça n'est plus vrai.
J'en parle vraiment à l'imparfait, c'est-à-dire que honnêtement, aujourd'hui, les partis politiques sont des fantômes dans nos sociétés, on le voit. Aujourd'hui, les médias ont perdu leur capacité à former l'opinion, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui s'informe ailleurs que dans les médias classiques. Il me semble que les discours d'autorité aujourd'hui ne produisent plus aucun effet sur les citoyens. Le mouvement des gilets jaunes est de ce point de vue très symptomatique, c'est-à-dire que en fait il y a une défiance organisée à l'égard de toute parole d'autorité. Or la démocratie, évidemment, c'est la contestation permanente de l'autorité, mais il faut qu'il y ait des repères, il faut qu'il y ait des acteurs, et ce rejet généralisé de la représentation, ce que j'ai appelé l'aversion à la représentation, est infiniment problématique pour les démocraties représentatives telles que nous les connaissons. Et aujourd'hui, je dois vous avouer qu'on ne voit pas comment dépasser cette situation.
Est-ce qu'il faut, Loïc Blondiaux, et là je m'adresse vraiment aux politistes que vous êtes et surtout à celui qui travaille depuis une quinzaine d'années sur les alternatives démocratiques, vous avez même un master d'ingénierie de la concertation à l'université, est-ce qu'il faut sauver la démocratie représentative à tout prix ou chercher des alternatives?
Il y a trois stratégies en fait pour celui qui veut essayer finalement de changer la démocratie, parce qu'il est nécessaire qu'elle change. En fait, la grande force de ce qu'on appelle démocratie représentative, c'est-à-dire ce régime un peu bâtard hein, qui est à la fois démocratique mais aussi à quelques égards oligarchique et aristocratique hein, qui est un régime complexe. Si on veut le sauver, il y a trois stratégies. Alors il me semble qu'il y a possibilité peut-être que des gens arrivent au pouvoir en voulant vraiment changer de paradigme. Alors, cette prise de pouvoir par l'élection, c'est-à-dire par les règles classiques de la démocratie représentative, si elle doit se faire, à l'heure actuelle, elle se fera par des gens qui ne sont pas des amis de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que l'alternance, elle se fasse avec le régime autoritaire. Donc, ceux qui veulent plus de démocratie, à mon avis, ne sont pas en mesure aujourd'hui de jouer, ils doivent le faire, c'est important, mais ils ne sont pas en mesure de jouer le jeu de l'élection.
Donc ça, c'est pas une façon de sauver la démocratie?
Alors non, c'est pas une façon, c'est effectivement, à mon avis, une stratégie qui me paraît assez illusoire. La deuxième stratégie, c'est de compter sur le fait qu'à l'intérieur même du système politique existant, que chez les élus, que dans l'administration, que chez les experts, il y a des gens qui ont pris conscience de ça et qui veulent changer les choses. C'est-à-dire, c'est ce que un sociologue américain, Eric Colin Wright, appelle la stratégie symbiotique ou réformiste. Là, c'est effectivement une possibilité, et effectivement tout ce qui renvoie à la démocratie participative, c'est-à-dire à ce qui permettrait de démontrer la résilience des institutions de ce régime, me paraît être une bonne chose, mais est-ce que ça ira suffisamment vite? Et puis la troisième chose, c'est effectivement l'expérimentation. On fait des choses nouvelles, on n'attend plus ce changement institutionnel, et on compte sur les citoyens pour s'auto-organiser. Vous avez parlé de l'Assemblée des Gilets jaunes de Commercy, c'est-à-dire effectivement, les citoyens désormais prennent en main leur destin. Voilà, ça me paraît être les trois stratégies aujourd'hui qui non sont ouvertes. Aucune d'entre elles n'est totalement convaincante, ou en tout cas, mais il y a encore des voies possibles pour le changement.
Avec peut-être un idéal, donc une démocratie dans laquelle le peuple ne serait plus démuni de son pouvoir de participation et de décision, mais tout en gardant un principe de représentation, à mi-chemin entre les deux d'une certaine façon. Ça existe ça?
Voilà, là on est confronté à des, comment dire, à des contraintes qui sont évidentes, c'est-à-dire que la démocratie directe, horizontale,
déjà.
La culture française, effectivement, qui est une culture
l'histoire
monarchique du pouvoir, ça c'est très clair, avec une distance très forte entre les élites, une distance systémique entre les élites et le reste de la population, ça c'est une évidence. Mais il faut dire aussi que la démocratie horizontale, elle n'est réellement envisageable et praticable qu'à petite échelle, c'est-à-dire qu'à échelle de quelques centaines de personnes, à échelle municipale, et encore, ça peut devenir compliqué, mais pour le reste, la représentation reste quelque chose d'absolument indispensable. Donc il faut accepter de se laisser représenter quand on est citoyen, quitte à avoir des moyens de contrôle, de surveillance, de révocation, pourquoi pas, du représentant. Mais il me semble qu'il ne faut pas succomber à l'illusion d'une transparence pure de la démocratie et qui serait surtout instrumentée par des plateformes numériques. Cette vision-là me paraît être plutôt une vision de cauchemar. Et en fait, il faut aussi, alors il faut développer des formes d'initiative citoyenne, des formes de contribution citoyenne, mais jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire jeter les institutions représentatives dans ce même mouvement, me paraîtrait être une erreur, hein, parce que là, on sait très bien que très souvent, cette démocratie horizontale se fond dans une figure autoritaire, dans une figure de leader autoritaire. Ça n'est pas forcément une fatalité. Les leaders peuvent être aussi des leaders démocratiques, mais ça n'est pas, c'est plutôt l'exception que la règle.
À quelles conditions ?
À quelles conditions? Moi, la condition principale, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans citoyens, sans démocrates, à condition que finalement, on mette vraiment l'accent sur les possibilités pour les citoyens de débattre, c'est-à-dire sur cette possibilité de le faire.
Dès maintenant,
sur le temps de le faire, sur les occasions de le faire, et puis surtout sur les équipements dont il a besoin pour le faire. C'est-à-dire que la démocratie, ça s'éduque. On ne naît pas démocrate, on le devient. Et pour moi, le lieu de la transformation par excellence, c'est l'école, où on doit rompre avec des formes de pédagogie qui nous préparent à être soit des maîtres, soit des sujets, mais pas des citoyens démocrates, pas des citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, cette pédagogie ultra compétitive, ultra individualiste, ne nous forme pas véritablement à ce que devrait être la citoyenneté. Et pour moi, là, l'essentiel, c'est que les générations qui viennent, et elles sont en train de jouer leur rôle, vraiment agissent en démocrate, c'est-à-dire soucieuses de l'intérêt général, capables d'écouter l'autre, capables de coopérer et de s'auto-gouverner.
Loïc Blondieu, est-ce qu'on est prêt à tout ça en France? Est-ce qu'on est prêt à ça au sommet de l'État? Et est-ce qu'on est prêt à cela, tout citoyen que nous sommes?
Alors, il faut jamais oublier que nos élites, effectivement, qui avaient développé à l'inverse des formes de pouvoir très ce qu'on appelle épistocratique, c'est-à-dire fondées sur l'expertise, fondées sur une certaine forme de discours d'autorité et très peu encline à la concertation ou au dialogue. Je pense qu'elles ont eu très peur. Dans le courant du mois de décembre, il y a eu un vrai moment de crise, et que là, peut-être que le moment est venu. Alors là, je fais preuve d'un optimisme délibéré, hein, mais peut-être que le moment est venu là pour qu'elles concèdent des réformes, des transformations qui ne soient pas cosmétique, hein, comme ça a été trop souvent fait au cours de ces 10 dernières années. On fait semblant finalement de mettre en place de la participation, mais en fait rien ne change. Hein, c'est le fameux tout change pour que rien ne change. Là, je pense que le moment est peut-être venu. Je l'espère vraiment profondément.